Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Nous poursuivons pendant ce temps de carême notre série sur le sacrement de pénitence et nous allons voir particulièrement comment préparer et accompagner enfants et adolescents à se confesser. Tout ça confesse, y compris les enfants et les adolescents. Et c'est de cette tranche d'âge dont nous parlons aujourd'hui avec le père Aymar de Langotier. Bonjour père.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes curé de la paroisse Porte du Lauragais, donc c'est Balma. Et
beaucoup d'autres villages
et beaucoup
à côté.
D'autres villages à côté. Vous avez fondé un patronage en septembre 2022. À vos côtés, Marie Marchoux, vous êtes membre de l'EAP, donc l'équipe d'animation pastorale de cette même paroisse. Et vous avez été pendant 4 ans organisatrice du PLVTT. Vous êtes mère de 3 grands-enfants. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Merci à vous deux d'être là aujourd'hui. Alors, première étape avant d'aller se confesser, c'est l'éveil de l'enfant et de l'adolescent à l'intériorité. Il faut d'abord qu'ils comprennent que Dieu est présent en eux. Comment leur faites-vous comprendre cette vérité essentielle ?
De fait, il faut commencer par du très concret. C'est pas la peine de faire des grands topos avec des concepts un peu abstraits pour eux. Il faut passer par des concepts simples comme la beauté, la gratitude, passer par les émotions aussi, leur dire pourquoi ils sont en colère, pourquoi ils savent qu'ils font quelque chose de mal, et les inciter à écouter la voix de leur conscience.
D'accord, mais quand vous dites ça passe par des choses simples, ça passe par la beauté. Est-ce que vous avez un exemple, par exemple, pour illustrer le fait que la beauté justifie la présence de Dieu en eux ?
Il faut leur montrer qu'ils sont aimables, donc aimés par Dieu, aimés par les autres. Et quand on aime quelqu'un, eh bien, on expérimente cette joie de l'amour. Mais cet amour aussi fait souffrir quand, dans une d'amitié, on est trahi par quelqu'un ou quand on est déçu par quelqu'un. Et c'est à partir de là, de cette déception, de « j'aime quelqu'un, mais il me fait souffrir », que ce soit par les parents, par les amis et par toute autre personne, eh bien c'est par cette frustration et cette déception qu'on peut toucher du doigt la valeur du péché et le fait que on a besoin de se réconcilier avec l'autre.
Vous, Marie Marchaud, avec vos grands-enfants de 20, 19 et 17 ans, comment vous les avez amenés justement à prendre conscience de la présence de Dieu en eux ?
Je crois qu'en tant que parent, et ça vaut d'ailleurs aussi au PLVTT ou dans des camps, il y a une valeur de l'exemple qui est très importante. À partir du moment où l'enfant voit son père s'agenouiller, sa mère se mettre en présence de Dieu, il y a quelque chose qui va se créer de l'ordre du mimétisme au départ, et puis qui va permettre à un moment de revenir en silence et puis de découvrir Dieu est toujours présent en nous, on ne fait pas grand-chose en réalité, mais en tout cas de préparer le cœur à quelque chose qui va venir les toucher très profondément.
Et pour cette conscience du bien et du mal, donc vous le disiez, Père Aymar, c'est quand on est blessé qu'on prend conscience du bien et du mal. Est-ce que vous diriez les choses aussi comme ça, Marie Marchoux ?
Oui, probablement, effectivement, quand on est blessé ou quand on blesse quelqu'un aussi. Enfin, on peut avoir un enfant qui va revenir en disant j'ai été, le petit untel, je lui ai dit ça et en fait, j'aurais pas dû, mais en même temps, il comprenait pas. Et à partir du moment où on va engager cette discussion, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui passent par la communication. Le jeune va se retrouver face à une espèce de dualité et quelque part, nous, parents, on va leur dire quel homme tu choisis d'être, vers quoi, qui tu as envie d'être. Est-ce que tu as envie d'être celui qui blesse ? Est-ce que tu as envie d'être celui qui amène le bien ? Et à partir de là, les choses se construisent progressivement. Et puis évidemment, on les amène vers le bien, on essaye en tout cas.
Oui, bien sûr. Dans cette conscience du bien et du mal, il y a aussi le mal qui est fait à l'extérieur. On le voit bien avec la violence, les guerres, etc. Comment vous les éveillez à ce mal qui ne dépend pas d'eux ?
En fait, il faut relier tout ça aux conséquences que ce mal porte. Et j'ai toujours en tête une image du pape François aux Philippines en 2015, quand il visite les Philippines avec la grand-grand-messe à 6 millions de personnes. Et une petite personne d'une fondation, une petite fille qui était violée et qui parle de cet abus devant le pape et qui finit en pleurant. Et le pape, on le voit à l'image, quitte son discours officiel, demande à pouvoir parler en espagnol, et être traduit en tagalog et en tagalog, oui. Et il regarde la fille en face, il lui dit, la fille lui pose la question, mais pourquoi le mal ? Et le pape lui dit, tu as posé la seule question qui n'admet pas de réponse. Et là, on voit ensuite une compassion, le pape la prend dans ses bras, et une grande joie derrière. Et donc expliquer aux jeunes qu'il y a un mal qui les dépasse, qui nous dépasse, on est tous solidaires du péché, du premier péché d'Adam et Ève, et donc qu'on a comme chrétiens à revêtir l'armure de Saint Paul, et à combattre le mal en nous d'abord, et ensuite dans la société si on y arrive, mais qu'on mourra, et le mal sera encore présent sur terre. Donc il y a quelque chose qui nous dépasse, mais en même temps, on a aussi notre part de responsabilité à stopper la diffusion du mal et à proposer l'amour en face.
Mmh. Oui, et puis, y a aussi ce qu'on dit souvent aux enfants quand ils sont petits, ils font quelque chose de mal, ils vont piquer un bonbon ou un carré de chocolat dans le placard, et ils se disent bah, « personne ne le voit », mais en fait, si, Dieu le voit. Et là, c'est aussi une façon de prendre conscience du mal que l'on fait.
Exactement, on en reparlera après tout à l'heure dans l'examen de conscience, mais moi j'ai l'habitude de proposer aux jeunes un examen de conscience en trois axes. Des péchés contre soi, les péchés que personne ne voit, les péchés contre les autres, publics, et les péchés dans sa vie spirituelle, contre Dieu. Et les péchés contre soi-même, eh bien, c'est tout ce moment où on se blesse par négligence, par action, par omission, et qui sont nécessaires de confesser, même si on n'a de compte à rendre à personne, si ce n'est à soi-même. Mais petit à petit, de confession en confession, on apprend à devenir des saints, en tout cas à se convertir et à comprendre que Dieu nous aime bien plus. Ouais.
Puisque vous parlez de l'examen de conscience, on peut peut-être l'aborder maintenant. Donc vous donnez donc ces trois pistes, ces trois axes aux jeunes pour se confesser, quel que soit leur âge. Donc péché contre soi-même, péché contre Dieu et péché contre son prochain. Est-ce que vous, dans ce cas, vous leur donnez des exemples très concrets ? Vous faites une liste de péchés pour chacun ? Comment ça se passe ?
J'ai fait ça un temps et en fait. Ça n'est plus forcément nécessaire avec les jeunes que j'ai, en tout cas sur la paroisse. Déjà, leur donner ces trois grandes distinctions leur suffit. Et quand ils me disent « mais je vois pas ce que j'ai pu faire de mal », je leur dis « c'est très simple. Vous avez tous vos amis au cinéma. Vous êtes bien placés, la séance sera belle. Et on projette votre vie devant tout le monde, de la naissance jusqu'à aujourd'hui. » Et là, ils disent « mais c'est pas possible, il y a trop de choses que je voudrais pas leur montrer. » Je dis « ben voilà, entre la honte, la gêne et tout ça. » Mais dedans, il y a des choses mal que vous avez faites et c'est ces choses-là que vous devez confesser. Et généralement, ça parle assez bien. Ouais, là, ils se rendent compte évidemment qu'il y a des choses, on exclut les situations embarrassantes où ils ne sont pas responsables. Mais toutes les choses qu'ils font en cachette ou qu'ils pensent et tout ça, là, ils mesurent assez bien. Et ça vaut examen de conscience. Ouais.
D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose, Marie Marchoux, sur cet examen de conscience, justement ?
Deux petites choses, peut-être. On a souvent tendance à considérer les enfants comme des enfants, justement, et à leur parler un peu simplement. Et moi, j'ai été assez chamboulée par l'un de mes enfants qui m'a dit « Mais faut arrêter de nous prendre pour des idiots, en fait. Parle-moi correctement, parle-moi comme si j'étais un adulte. » Il avait 10-12 ans, hein. Et c'est là où j'ai réalisé que quand on parle de la confession... justement, parler des bonbons, des placards, de la chambre mal rangée, c'est vraiment pas du tout le sujet, en fait. Et effectivement, ce que vient de dire le père Aymar est très juste. On a été confrontés dans la famille au décès d'une personne assez proche. Et le jour de l'enterrement, les oraisons funèbres ont été très belles. La personne a vraiment été encensée pour sa gentillesse, sa bonté, son attention, etc. Et aux enfants, je leur ai dit ça. Je leur ai dit, voyez, la question fondamentale, c'est qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous le jour où vous serez plus là ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous ? Eh bien, c'est ça qu'il faut travailler et c'est ça que vous devez être. Et tout le reste, ben, quelque part, ça peut être des manques d'amour, des manques contre vous, contre les autres, contre Dieu. C'est peut-être ça qu'il faut rechercher. Pensez toujours, est-ce que le jour de ma mort, qu'est-ce que je veux qu'on dise de moi ? Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant aussi, voilà, d'aller chercher autre chose que... effectivement, la to-do list un peu enfantine là, qu'on peut donner parfois.
Voilà. Oui, qui peut être un guide aussi. Mmh. Mais,
souvent, on est confronté comme prêtre, évidemment, au péché contre l'affectivité, toute la découverte de leur sexualité, et donc masturbation, pornographie aujourd'hui. Et souvent, je déculpabilise les jeunes qui veulent qu'ils se confessent parce qu'ils ont l'impression, et c'est très humain, il y a le diable derrière, que tous les péchés en matière de morale sexuelle sont hyper importants et méga, méga graves. Et en fait, je déculpabilise en tout cas les jeunes en disant, bon, oui, il est nécessaire de les confesser, mais quand tu penses que c'est hyper important et que tu balayes de la main un manque de charité envers ton ami, en fait, c'est ça qu'on va travailler. Les péchés de morale sexuelle, tu auras le temps de les traiter plus tard. Mais le manque de charité, pour moi, c'est bien plus grave. Voilà, tout ce qui est critique, tout ce qui est médisance, eh bien, on va travailler ça, et ça sera ta pénitence, et ça sera ton axe d'effort pour la suite. Et le reste, ça s'écoulera avec les hormones, et puis avec ce que tu vivras. Mais on va travailler ces manques de charité au collège, au lycée. Quand tu critiques, tu démolis quelqu'un. Oui, mais non, mais je fais juste rapporter des potins. Bah voilà.
Ouais. Et donc, c'est une façon de mettre une échelle de valeur, une échelle de gravité, finalement, sur les péchés des enfants ou des adolescents.
Exactement. Il y a une échelle de valeur en fonction de l'âge des enfants. Je me souviens, petit, mes premiers péchés, et j'avais honte, vraiment honte de le dire. Et je disais d'un seul bloc, c'était de me battre avec mes frères. C'était terrible. Et en grandissant, j'ai vu qu'il y avait d'autres choses un peu plus terribles et que le monde me permettait de faire des péchés encore plus graves. Et donc, en fait, je leur propose toujours de... Quand ils ne veulent pas dire un péché au prêtre, ils le disent en premier.
Voilà. Ah oui, comme ça, on
ils
est
le disent en premier, ils disent les termes très clairs. Et comme ça, eh bien, ça permet de mesurer qu'est-ce qui est très, très grave pour l'âme du pénitent que l'on confesse, de l'enfant qu'on confesse. Et ça peut varier du tout au tout. Et c'est là où on mesure, comme prêtre confesseur, la beauté des âmes et de voir où est-ce qu'il en est. Donc souvent, je leur demande de confesser leur plus gros péché en premier, et ensuite vient le reste. Et c'est l'enfant, le jeune, qui détermine son échelle de gravité. Et ensuite, c'est au prêtre à renverser ou à confirmer si c'est effectivement grave, on a travaillé dessus, ou c'est pas très grave, on va travailler autre chose.
Mmh. Marie Marchoux, sur cette échelle de gravité, si on peut dire.
Oui, je suis évidemment complètement d'accord avec le père Aymar. Il y a une échelle, quand on est face à Dieu, de toute façon, quel que soit l'âge, je crois qu'on sait où on se situe. Et l'enfant a cette conscience tout autant que l'adulte de ses bien, ses mal. Voilà. Alors bien sûr, il n'a pas encore expérimenté toute la panoplie du mal sur Terre. Et tant mieux, heureusement pour le monde. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours prendre très au sérieux, quel que soit, qu'est-ce que soit le péché. J'ai été très marquée, j'étais toute jeune, juste avant ma première communion. À l'époque, on m'avait proposé une confession. Et quand je suis arrivée et que j'ai dit mes péchés, je vois encore ce prêtre qui me dit « Oh, mais ça, c'est pas grave !» Et ça m'a profondément blessée et je l'ai retenu assez longtemps. Il a fallu quelques bonnes années avant que je redécouvre la beauté de la confession parce que pour moi c'était grave. Mmh. Et voilà, et je crois que voilà, quelle que soit la personne, et à mon avis ça vaut aussi quand on est adulte, parfois on a l'impression d'avoir fait quelque chose d'extrêmement répréhensible, et en fait on fait comme tout le monde très souvent. Heureusement, fort heureusement d'ailleurs.
Oui,
on n'expérimente pas tous les péchés du monde, c'est mieux.
Oui, heureusement. Oui.
En fait, ce que dit Marie est très important. Je m'interdis, en tout cas, on nous forme comme ça, comme jeunes prêtres, de commenter les péchés des pénitents. Et surtout des enfants. Quand ils arrivent avec leur liste, c'est tout mignon, hein, ils arrivent avec leur liste de 3 péchés, ils se confessent. Et je prends toujours très au sérieux ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont réfléchi. On a évidemment la patte de la maman ou du papa derrière qui les a préparés. Et je prends vraiment très au sérieux ça, et je me refuse, même quand ils confessent un oubli qui n'est pas un péché, je prends tout et je leur donne un petit axe d'effort, mais je refuse de faire ce que Marie a vécu comme traumatisme, et de dire « ça c'est pas grave, ça c'est pas grave ». Voilà.
Oui, et parce que pour eux c'est grave.
Exactement.
Oui, pas de parti pris. Comment expliquez-vous que le pardon de Dieu doit être seulement donné par un prêtre ?
Parce que c'est Jésus qui nous l'a enseigné comme ça, tout simplement. Le soir de la résurrection, quand il apparaît à ses disciples, il leur dit « Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux » et inversement. Et donc, il donne ce pouvoir à ses disciples que l'Église a traduit à travers sa tradition, et bien jusqu'au sacrement de confession, pénitence, réconciliation, miséricorde, tout ce que vous voulez, a traduit comme ça. Et dans l'histoire de l'Église, et bien c'est arrivé jusqu'à ce que un sacrement individuel, avec une absolution individuelle, aujourd'hui plutôt dans un confessionnal, pour donner ce pardon que Dieu donne, mais par l'intermédiaire du prêtre. Je te pardonne, moi, prêtre, je te pardonne tous tes péchés.
Est-ce que dans tous les ados que vous avez accompagnés pendant les PLVTT, vous avez eu cette question, non mais en fait, moi je demande pardon directement à Dieu, je vais pas me dévoiler à un prêtre, en plus je le connais pas, ou au contraire je le connais très bien, c'est un ami de mes parents, ou, comment vous avez réussi, vous Marie-Marchou, à passer cette étape?
Alors, moi, sur l'organisation PLVTT, la mission spirituelle n'est pas du tout de mon ressort. Je m'occupe de la partie organisation et toute l'organisation de la vie spirituelle du camp est gérée par ce qu'on appelle le GGG, Grande Gueule Générale, voilà, qui est un prêtre et qui est évidemment qui est le directeur de camp, hein, qui est la personne qui organise. Et moi, je suis au service pour que toute la partie
logistique,
puisse être au service de ces jeunes qui vont rencontrer Dieu. Vraiment, le PLVTT est organisé comme ça. Donc cette partie spirituelle, je n'y ai pas été directement confrontée. Par contre, je l'ai vue en tant que maman. Je l'ai vue aussi, évidemment, parce qu'on les voit, ces jeunes. Je me souviens en particulier d'une jeune fille qui portait énormément de choses et qui ne rentrait pas dans le PL parce qu'elle avait le cerveau qui était complètement occupé par ce qui se passait chez elle. Et ça lui a occasionné beaucoup de souffrance. Et on a beau être une maman rodée à tout l'exercice de compassion, on n'est pas armé pour ça. On n'a pas eu le sacrement aussi, hein, qui nous permet d'accompagner spirituellement. Moi, je suis juste une mère de famille, mais il y a quand même quelque chose dans le sacrement de l'ordre qui est différent. Et cette jeune fille, à un moment, j'étais face à l'impossibilité de l'accompagner. Et je l'ai emmenée, évidemment, assez vite, hein, d'ailleurs, parce qu'on sait quand même, vers un religieux qui l'a accompagnée, qui s'est assis pendant toute une veillée et qui a discuté avec cette jeune fille. Et qui, progressivement, parce qu'elle avait beaucoup de choses à dire, a pu délier chacun des nœuds. Et à partir de cet échange-là, qui n'était pas une confession, hein, qui était vraiment de l'ordre de l'accompagnement spirituel, je mettrais ce mot-là, a pu délier progressivement chaque nœud et puis s'est ouverte et a fini le pèlerinage rayonnante, mais vraiment rayonnante. Et ça, quand on le voit, ça vaut toute la théologie. Hein. Il y a quelque chose qui a été donné par le Seigneur, par l'intermédiaire de son Église, et qui est beau, et qui est visible, et qui est efficace. Très efficace.
Très efficace. Et justement, vous parlez de cette différence entre l'accompagnement spirituel et la confession. Comment vous expliquez aux jeunes, aux enfants, aux adolescents que ce n'est pas la même chose?
Au séminaire, on était un peu bâché par tout ça, tous les gestes barrières contre les abus sexuels d'autorité et tout ça. Et donc du coup, on nous enseigne, et je le vis profondément, que la confession doit rester la confession. Et nous, jeunes prêtres, on revient très facilement au confessionnal. Et ce n'est pas une théorie, c'est des faits.
Un constat.
À partir du moment où les prêtres sont sortis des confessionnaux et ont commencé à mélanger un peu les deux, et tout un tas d'autres facteurs, les abus ont commencé. Donc de revenir dans un confessionnal, avec un temps marqué, pas très agréable, on est à genoux face à du bois, on n'entend pas grand-chose, voilà. Eh bien, ça pose la règle, et j'ai l'habitude de confesser de manière plutôt efficace, et donc plutôt rapide. Et donc, voilà, une confession, c'est 5 minutes. Si tu veux me parler, il n'y a aucun souci, je suis disponible toute la semaine, mais pendant ce temps de confession, je confesse. Et ensuite, on discute après. Et ça, je leur dis assez souvent, et je pense me montrer disponible, et certains jeunes ont demandé un accompagnement spirituel dans lequel, eh bien, je confesse toujours à la fin et je marque un temps par un signe de croix, par l'absolution à la fin, pour vraiment distinguer les deux, l'accompagnement spirituel où on discute, on conseille, on accompagne, et la confession où c'est le prêtre au nom de Dieu qui parle et qui pardonne.
D'accord. Avant de marquer une pause, à quel âge on peut proposer la première confession?
À partir de l'âge de raison. Quand l'enfant commence à distinguer le bien et le mal, quand ses parents l'éveillent à distinguer le bien et le mal, à demander pardon à ses parents, ses frères, ses sœurs et ses amis. Et à partir du moment où l'enfant se sent prêt aussi. Pas que ce soit un traumatisme, comme disait Marie, où les parents forcent l'enfant à aller se confesser. Il faut que ce soit un désir. C'est souvent couplé autour de la première communion, où il y a un désir de recevoir Jésus, et donc un désir de se purifier avant de recevoir Jésus. Et donc, voilà, il faut... là, j'ai en tête une petite fille qui souhaite recevoir sa première communion. Elle n'est pas encore prête. Il lui reste 3 mois avant la date fatidique. elle n'est pas encore prête. Et ça va, on va le faire tranquillement. Et le moment où ça sera débloquera, eh bien, on confessera même le matin même.
Oui, c'est ça. Il faut, vous préférez quand même que l'enfant se confesse pour la première fois avant sa première communion.
C'est mieux, oui. Ouais.
C'est mieux.
C'est mieux.
D'accord. Marie Marchoux, vous avez une expérience particulière avec vos enfants de la façon dont vous avez pu appréhender leur maturité spirituelle pour cette première confession ?
Spontanément, non. Je crois que c'est quelque chose qui leur appartient, en fait. Je ne crois pas avoir accompagné particulièrement. Évidemment, comme toute bonne mère catholique, je les ai emmenés à Pâques régulièrement en disant « Avant Pâques, on se confesse, on n'oublie pas, c'est important d'arriver propre pour la veillée pascale. T'as fait tes efforts. » Bon, je l'ai fait, bien sûr, donc je les ai emmenés un peu... oui, effectivement, je les ai emmenés en disant « Là, c'est l'heure de la confession. » Et les trois passent les uns à la suite des autres. Et je me souviens d'un prêtre qui m'a dit « Vous savez, ça ne fonctionne pas comme ça. » Et à partir de là, j'ai arrêté. J'ai arrêté, effectivement, c'est quelque chose qui leur appartient. Et c'est une démarche qui doit être volontaire. Voilà. Et ouais, la confession un peu obligatoire de « C'est pas que tout le monde la confesse. » Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais voilà, il faut que ce soit leur démarche. Alors je leur rappelle, tu sais, là, je vais y aller. Est-ce que tu veux m'accompagner ? J'essaie de ne pas être trop insistante, mais ça ne fonctionne pas toujours.
Ouais,
j'aime bien les confessions où, évidemment, les petits-enfants ou les parents qui accompagnent, donc qui restent derrière, soit qu'ils se confessent en premier, c'est très beau, comme disait Marie, c'est l'exemple qui donne envie aux enfants de se confesser, quand le papa, la maman commencent en premier. Et ensuite, quand les enfants viennent se confesser, notamment pour les premières confessions, où ça a été préparé par la catéchiste et tout ça, et l'enfant en sort au bout de 2 minutes, et les parents qui font « Mais t'as vraiment tout dit ?» T'as tout dit, je fais « Non, je ne dirai rien. » Mais de fait, les confessions d'enfants sont plutôt efficaces.
Parce que j'avais des suggestions.
Ouais. Moi, j'ai des idées, j'ai des listes. Allez, on marque une pause, Marie Marchaux et Père Aymar de Langoutier. Nous écoutons « Je ne peux qu'imaginer », c'est la chanson officielle de « La Voix du Pardon », ce très beau film qui a été publié par Sage sur justement le pardon d'un père à son fils et d'un fils vis-à-vis de son père. Cette chanson est interprétée par Grégory Turpin et Glorious. Et je précise, attention, qu'il y a un Alléluia. Je sais que nous sommes pendant le temps de carême, donc je vous prie de m'excuser pour cette petite entorse.
Que je vivrai quand je marcherai à tes côtés. Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai quand devant ta face je me tiendrai. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Ressentira mon cœur le désir de danser ou de te contempler, le désir de m'incliner ou la force de m'avancer, de chanter Alléluia ou dans le silence adorer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Viendra ce jour où je me tiendrai revêtu du Christ. Je ne peux qu'imaginer quand je passerai l'éternité à te louer. Je ne peux qu'imaginer. Je ne peux qu'imaginer. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur, le désir de danser ou de te contempler, le désir
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
De retour avec le père Aymar de Langotier et Marie Marchaud pour nous partager leur expérience de l'accompagnement des enfants et des adolescents pour se confesser. Nous avons vu dans cette première partie d'émission comment distinguer la maturité spirituelle de ces enfants et de ces adolescents pour une première confession notamment. Un mot peut-être sur les catéchumènes puisqu'ils ne se sont jamais confessés, mais le jour de leur baptême, qu'est-ce qui se passe en fait ?
On a la chance d'avoir, on connaît le phénomène, beaucoup de catéchumènes, adultes et jeunes aussi. Et pour tout le monde, le baptême vaut confession. Certains prêtres rechignent un peu et donc disent parfois des bêtises, mais le baptême vaut confession de tous les péchés de la vie passée. Et donc ensuite, une fois que le catéchumène est baptisé, devient néophyte, eh bien la confession suivante ne concerne que les moments à partir du baptême jusqu'à la première confession. Alors ça, je l'ai dit à des lycéens que je prépare et que je baptiserai à Pâques, et ils ont été hyper soulagés. Non mais du coup, on n'est pas obligé de vous le dire, tout ce qu'on a fait avant. Je dis, non, ça vaudra confession. Après, si ça vous reste sur la conscience, vous pourrez en parler à un prêtre, mais ce péché-là sera pardonné. Mais bien sûr, si vous souhaitez progresser et en tout cas faire un peu de clair sur votre vie, on pourra aborder ça lors de votre prochaine confession, mais le baptême vaut confession.
Et après, puisque vous dites que ça peut valoir le coup d'aller quand même voir un prêtre, il y a notamment la question de la réparation du péché, du mal que l'on a fait. Et là, ça peut être l'occasion d'accompagner le jeune une fois qu'il est baptisé pour lui dire, ton ardoise, elle est complètement effacée, mais peut-être que tu peux voir comment réparer.
Exactement, c'est la pénitence qui est proposée par l'Église, en tout cas qui rentre aussi dans les étapes de la confession. Et ce week-end, j'étais avec des jeunes de la paroisse, 60 jeunes de la paroisse de la 6e à la terminale, en week-end à Villefranche-Rouergue. Et je parle un peu de confession en off à table. Et là, les jeunes m'avouent en disant « Mais mon père, vous êtes le seul prêtre qu'on connaît qui propose des pénitences. » Je dis « Ah bon, très bien. » Je dis « Bah, je vais continuer alors. » Je dis, mais n'hésitez pas à la demander, votre pénitence. Si vous êtes face à un prêtre qui n'en donne pas, n'hésitez pas à la demander. Mais j'estime que la pénitence, en dehors de trois pater et un ave, la pénitence est nécessaire comme une petite boîte à outils pour faire progresser le jeune vers une réparation de quelques péchés qu'il a pu commettre.
Marie Marchaud.
Oui, je rebondis parce qu'effectivement, ça m'est arrivé, moi, en confession à titre personnel, de ne pas avoir recevoir de pénitence et donc de la demander. Et je vois toujours la tête de la personne en face de moi qui me dit « Pardon ? Oui, en fait, je voudrais une pénitence. Normal, juste un jour sous le mari, quelque chose, mais voilà, il le faut. » Et je crois que oui, effectivement, il faut aussi avoir ce caractère-là de réflexion demander. Après et de ne pas hésiter à demander, ouais.
En tout cas, je renvoie à l'émission que nous avons faite la semaine dernière avec le frère Philippe-Marie Marjolidon, un dominicain. Et il disait que la pénitence faisait vraiment partie de ce sacrement. Sacrement
oui,
du pardon.
Moi, j'avais très peur que ma confession ne soit pas valable. Donc, comme je n'y vais quand même pas non plus tous les quatre matins, j'ai dit non, pénitence, mon père, pénitence.
C'est ce que disent les anciens avec des formules très appropriées. Ma confession, ma dernière confession remonte, j'ai fait mes Pâques à tel moment et j'ai fait pénitence et je vous demande, mon père, de faire absolution si vous me jugez digne. Je pense que je vais la faire réapprendre aux jeunes parce que je l'aime bien cette formule.
Oui, c'est une belle formule. Dans quel état d'esprit les jeunes sont-ils à l'égard de la confession ?
Comme disait Marie, il faut leur parler de manière très claire. On a un renouveau du sacrement de confession qui est moins rapide que le renouveau des catéchumènes. Mais les jeunes générations de prêtres n'hésitent plus à proposer le sacrement de confession. On en parlera tout à l'heure. Et du coup, c'est parti des sujets non négociables à aborder en aumônerie ou pendant des camps. Il y aura un temps de confession proposé pour eux. Et du coup, ils sont plutôt ouverts à l'idée d'en parler. Et je les vois de moins en moins traîner des pieds pour y aller. En tout cas, quand ils savent qu'il y a une soirée confession, ils ne vont pas inventer des excuses. Ils savent qu'ils vont devoir passer à la casserole. Et l'idée, c'est justement leur présenter ce sacrement comme un rendez-vous d'amour et le fait que plus ils y viennent, plus ils comprendront que Dieu les aime de manière plus profonde.
Et justement, dans les camps dont vous parlez, les VTT, les camps de jeunes, il y a toujours ce sacrement de la confession qui est proposé. Comment vous amenez les jeunes à parvenir à aller concrètement se confesser ? Marie Marchaud.
C'est déjà quelque chose qui n'est pas proposé d'entrée de jeu. On ne commence pas un camp par...
Confesse-toi.
Tel jour, ce sera la confession.
Voilà. Pas du tout. Dans les PLVTT, chaque groupe de jeunes pédale avec un séminariste, un religieux ou une religieuse. La confession n'arrive qu'à la fin. C'est-à-dire que c'est une veillée, d'abord, c'est une veillée adoration-confession. On a vraiment les deux dimensions qui vont vraiment ensemble. Et pendant 4 jours, on va leur parler du Christ, on va leur parler d'une relation d'amour. Le PLVTT a cette particularité d'être marial, c'est-à-dire vraiment accompagné par le chapelet, avec une réflexion sur des mystères qui est très profonde. Et on va essayer d'amener les jeunes à découvrir vraiment une relation d'amitié. Une relation d'amitié. Et donc, un peu comme dans la relation humaine, à partir du moment où vous connaissez la personne, vous avez plus de facilité pour lui parler. Là, c'est un peu pareil. On va créer cette relation-là pendant 3-4 jours. Et la veillée d'adoration-confession va être un peu le sommet, parce que les jeunes sont préparés. Ils savent où ils vont. Ils savent qu'ils vont rencontrer le Christ. Il y a un nombre de conversions pendant ces veillées qu'on voit. Hein. Enfin, nous, on ne dit rien, bien sûr, on reste discret, y compris chez les adultes, d'ailleurs, qui se préparent de la même façon. Et on a beaucoup d'adultes qui arrivent pour aider, qui ne sont pas forcément chrétiens et qui ressortent en pleurant, enfin vraiment, qui ont rencontré quelqu'un, une personne vivante, et qui vont très naturellement à la confession parce que, justement, ce n'est pas quelque chose de culpabilisant, c'est vraiment le nettoyage du cœur. Et on le présente comme ça, on a progressivement un peu encrassé le circuit, là, voilà. Et on arrive à la confession, et là, il y a un nettoyage d'amour qui vient et qui purifie vraiment l'âme. Je crois que ça ne peut arriver qu'à partir du moment où on a pris le temps de connaître et de rencontrer, de créer cette proximité. Les jeunes reviennent très souvent transformés par cette expérience-là.
Mmh.
De fait, ces camps sont basés sur une parole de Marthe Robin où elle aurait dit « Il faut 5 jours pour convertir une âme ». Et donc ce 5e jour pour un PLVTT, pour les camps de jeunes que l'on fait, eh bien, c'est le moment, la dernière soirée, si le programme le permet, où eh bien, juste avant de partir, juste avant de se séparer, eh bien, on vient recueillir un peu tous les fruits et tout ce qu'on a compris, saisi de l'amour de Dieu pour nous. Et pour les prêtres, on mesure cette efficacité de la confession, s'il y en avait une, nos litres de larmes versées lors de ces soirées-là. Et il est très beau pour un prêtre d'accompagner spirituellement tout un groupe, comme disait Marie, adulte et jeune, et de voir, lors de cette soirée, adoration-confession, de proposer librement, évidemment, ce sacrement-là, mais en tout cas qu'ils puissent avoir cette opportunité de vraiment concrétiser leur désir de changer. Et généralement, à la fin des camps, on leur propose toujours qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai compris de moi, et avec quoi je veux repartir. Ils ont souvent des efforts très concrets, très simples, de la soirée de confession.
D'accord, oui, donc c'est effectivement concret. Pour les aider à aller se confesser, il y a un cadre, vous parliez, Père Aymar de Langotier, juste avant la pause de ce cadre physique, hein, du confessionnal. Quand on est en camp, j'imagine que c'est compliqué quand même d'avoir des confessionnaux et d'en avoir une trentaine. Comment vous matérialisez finalement ce lieu du pardon?
Alors, oui. C'est extrêmement important de matérialiser. On n'est pas juste entre potes en train de discuter sur un banc. Et donc, nous, la technique, elle vaut ce qu'elle vaut. Et effectivement, il y a beaucoup de prêtres, beaucoup de jeunes. Donc, il faut trouver la bonne méthode. C'est tout simplement une petite bougie. Voilà, on n'a pas forcément 20 confessionnaux pour accueillir tout le monde. En revanche, on matérialise l'emplacement avec vraiment 2 chaises, une petite bougie. Et à cet endroit-là, la lumière du Christ est présente et à cet endroit-là, il va se passer quelque chose. Donc, on le matérialise comme ça. C'est une idée, je pense qu'il doit y en avoir autant que de camps, mais on essaye de faire un peu comme on peut. Le tout, c'est que la personne comprenne vraiment qu'il va se passer quelque chose. Et je voulais ajouter un petit point tout à l'heure aussi. Parfois, on est un peu déçu. On arrive sur la confession, on attend un moment formidable, on a été boosté, préparé, etc. Puis on arrive et... finalement, c'est assez simple, quoi. Ça aussi, c'est un témoignage. Parfois, c'est très simple. La confession, c'est pas forcément un truc, le Christ arrive, on ressort complètement transformé, on est des nouveaux disciples.
C'est pas forcément du sensible.
C'est pas forcément du sensible. Mmh. Les choses peuvent être extrêmement simples. On a dit ce qu'on avait à dire, ça a duré 5 minutes, on n'a pas l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Mais par contre, le fait de le répéter, de le revivre, progressivement aussi, notre cœur se forme et on repère plus facilement aussi les manques d'amour. Et ça reste aussi quelque chose voilà, qui regarde Dieu et moi et qui peut-être ne va pas passer par l'émotionnel, mais qui reste un nettoyage en profondeur. Il faut aussi savoir accepter la simplicité du Christ.
De fait, je suis assez attentif à la forme que prend la confession. Vendredi prochain, on va en vivre une dans le cadre de l'aumônerie où j'ai appelé plusieurs prêtres à venir. Et je choisis le lieu de confession en fonction de l'Église. De savoir si les prêtres seront suffisamment espacés les uns des autres, si ça sera beau, si ça sera visible, pour éviter de mettre des prêtres dans l'embarras en fermant une sacristie, dans un recoin, en dehors de l'église, et que ça soit décent pour les prêtres, pour les protéger, pour sécuriser les jeunes, et permettre que la veillée puisse bien se passer. Et j'aime bien quand les prêtres ont un visuel, l'adoration, juste en face, pour qu'ils puissent s'en inspirer et demander à l'Esprit-Saint de venir lors des confessions, et qu'on puisse être tous tournés vers le Christ, et pas, voilà, c'est ma petite confession, je tourne dos à Jésus, ou voilà. Et ce que j'ai remarqué, de manière assez spontanée chez les jeunes, c'est quand on leur propose cette soirée confession, eh bien, dès le premier chant, ils vont tous se lever et faire une file d'attente. Et maintenant, je leur dis, bon déjà, vous êtes trop près, là, vous êtes à 2 mètres, donc reculez. Je fais la police. Et je leur dis, en fait, on va arrêter de faire des files d'attente parce que vous attendez comme chez le médecin et vous commencez à discuter. Moi, je veux que vous soyez face à Jésus et vous pouvez vous retourner de temps en temps, mais partez du principe que quand quelqu'un revient, c'est qu'il y a un siège qui s'est rendu disponible. On va arrêter les files d'attente parce que très souvent, il y avait des files d'attente, 5 files d'attente sur les 5 prêtres. Mmh. Il y avait plus que 2 personnes devant Jésus et moi, ça ne m'allait pas.
Oui, oui, mais d'où l'intérêt effectivement de proposer cette soirée confession et adoration pour être en présence du Christ et puis de le laisser éclairer finalement pour préparer et puis après pour préparer la confession puis pour rendre grâce.
C'est ça. Et généralement les jeunes en tout cas de la paroisse savent très bien chanter et en profitent pour chanter entre eux et proposer vraiment une émission de qualité qui vient porter tout le monde. Ouais.
Mm-hmm. Puisqu'on parle de l'action de grâce, est-ce que c'est important dans les temps de confession avec les enfants et les adolescents de marquer justement cette action de grâce, cette post-confession ?
Dans la préparation à la confession, je leur propose souvent de commencer par une action de grâce. Leur confession, quand ils arrivent, bénissez mon Père parce que j'ai péché, de commencer par ce que a fait Jésus concrètement dans leur vie, en beauté. Et ensuite, on se confesse. Et très souvent, les pénitences que je donne, c'est un temps de prière où ils viennent remercier le Seigneur pour 3 choses très concrètes qui se sont passées aujourd'hui ou dans la semaine, pour leur donner ce goût de ne pas s'apitoyer sur leur pénitence et sur leur péché, mais d'abord de scruter leur âme, comme disait le curé d'Ars, de d'abord scruter leur âme sur les actions de grâce avant de voir ce qui ne va pas.
Et puis il y a aussi cette action de grâce pour le pardon reçu.
Exactement, oui, exactement. Oui. Généralement, après les soirées confession, il y a beaucoup d'excitation. Donc quand il y a une nuit derrière, c'est compliqué, il faut la gérer. Et quand ils s'en vont, ils sont hyper excités et le week-end commence bien. Ouais.
Donc il y a une vraie joie quand même. Ouais.
On voit beaucoup dans les pélés, effectivement, ces 2 phases de la soirée. C'est-à-dire qu'on va avoir nous, on fait une procession pour aller jusqu'à l'église avec Notre-Dame. On traverse le village, on chante, on arrive. Bon, il y a quelque chose d'assez émotionnel. Les jeunes s'agenouillent, le Saint-Sacrement est là. La confession vient un peu transformer tout ça, sublimer tout ça. Et puis, les jeunes se rassoient, vont avoir leur temps d'action de grâce. Et puis, ils sont assis. Et puis, au bout d'un moment, ils ont un peu envie de parler. Et puis, finalement, c'est quand même la dernière soirée. Et donc, on commence à les voir sortir. Et c'est normal. Et on les accompagne jusqu'au camp. C'est pas toujours évident de gérer cette espèce de courbe. Ce qu'on a fait, c'est que l'on propose après un petit temps de débriefing, etc. Et les jeunes le savent. Ils vont avoir un petit temps après la veillée où ils vont être entre eux, alors un petit jus d'orange, voilà, 3 bonbons, mais quelque chose qui permet de gérer ce moment-là. On voit aussi beaucoup de jeunes qui vont jouer leur rôle de ramener les plus jeunes dans les tentes pour le camp et qui vont revenir à la soirée adoration. Parce qu'ils n'ont pas fini, en fait. Ils ont encore des choses à dire au Christ. Enfin, ils ont encore envie de s'agenouiller et de rester. Et c'est souvent, on a une petite trentaine de jeunes qui sont là jusqu'à la fin et qui vraiment ont soif. C'est assez beau à voir. Y a pas seulement... La confession, elle libère quelque chose chez les jeunes qui méritent d'être accompagnés aussi. Et à partir du moment où le jeune revient... On sait qu'il va revenir régulièrement, hein, la confession c'est acquis.
Magnifique. Un dernier mot pour conclure, Père Emma.
Les jeunes ont souvent peur de se confesser au prêtre qui les connaît, en disant « ouais. Vous nous voyez agir, vous savez ce qu'on fait, tout ça, et donc j'ai pas envie de dévoiler le plus intime ». Et donc ça, c'est OK, il n'y a pas de problème. Et je leur conseille souvent, c'est pour ça que dans les soirées confession, on propose plusieurs prêtres, ceux qui sont à l'aise et qui viennent se confesser très régulièrement au même prêtre, à moi par exemple, et ceux qui sont moins à l'aise et qui vont se confesser aux autres. Par contre, je leur dis, pas de butinage spirituel. Ça veut dire ne changez pas de prêtre à chaque confession en disant, mes péchés un peu compliqués, je les donne à celui-là, le vieux que je connais pas, que je reverrai jamais, et les péchés un peu classiques, je les donne au Père Aymar et ça sera plus simple. Donc je leur propose vraiment il n'y a pas de problème, si vous ne voulez pas vous confesser à moi, c'est pas un souci. Mais par contre, déjà soyez réguliers dans votre sacrement de confession, et éviter de choisir à chaque fois des nouvelles personnes, parce qu'à la fin, vous aurez fait le tour de tous les prêtres de Toulouse.
D'accord. Merci beaucoup. Merci Marie Marchoux. Merci Père Aymar de Langoutier. Je vous remercie de nous avoir éclairé aujourd'hui sur la confession des adolescents et des enfants. C'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie.
Merci.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.